Israël au Cachet oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mépris du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a investi dimanche dernier par ordonnance présidentielle les 68 membres du Conseil économique et social. Cet organe a pour mission de formuler les propositions concrètes pour améliorer le vécu quotidien du Congolais. Ces propositions seront soumises au gouvernement, au Parlement ou au président de la République. Quel pourrait être l'impact de cet organe sur la vie sociale des Congolais? Julie César réalise cette émission mise en onde par Jean-Claude Chiala et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision d'Oben Kiabamba. 081 890 7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 7315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Et pour cet échange, nous avons associé M. Henri Thomas Lokondo, député national, initiateur de la loi organique portant création du Conseil économique et social. Il est membre de la commission de relations extérieures à l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, vice-ministre, beaucoup de titres que vous portez. M. Henri Thomas Lokondo, bonjour et bienvenue à Radio Okapi.
Bonjour.
Alors, la première question, pourquoi alors avoir créé un conseil économique et social?
D'abord, c'est une exigence de la Constitution. C'est une loi organique, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. Donc, c'est la Constitution qui a été votée par référendum, par le peuple congolais, qui exige qu'on puisse mettre en place le conseil économique et social par... la volonté de l'article 210 de ce texte, et c'est ce qui a fait que bon, cette volonté doit étant impérieuse, j'ai pensé faire une proposition de loi pour mettre en place ce conseil économique et social qui n'est pas là le premier, parce que comme vous devez le savoir, comme je l'avais souligné dans l'exposé de motifs, pour faire un peu le rappel, le Conseil économique et social a été également voulu par la Constitution du 1er août 1964, mm-hmm. qui avait même prévu non seulement un Conseil économique et social au niveau national, mais même au niveau des provinces. Mais comme vous le savez, malheureusement, ce Conseil n'avait pas fonctionné suite à l'instabilité politique de l'époque. Et même en 89, le président Mobutu avait mis en place un organe de ce genre qui s'appelait le Conseil consultatif permanent pour le développement, qui mm-hmm. a été animé pour un mois seulement par l'actuel sénateur Bobolico, et même le président Kabila, Laurent disait Kabila, quand il est arrivé, il a pensé également à mettre en place une structure permanent de concertation économique pour évaluer les grands problèmes socio-économiques de la nation.
Et les missions spécifiques pour ces conseils économiques et sociaux?
Donc les missions fondamentales, il faut le dire, c'est d'abord évaluer tous les, comme je disais tout à l'heure, les grands problèmes socio-économie de la nation, mm-hmm. analyser la conjoncture économique et sociale de la nation, assurer le suivi des politiques économiques et sociales, non seulement nationales, provinciales, même internationales, ainsi que leurs répercussions sur la vie des Congolais. Le Conseil a aussi la mission de contribuer à l'information des citoyens sur l'évolution de la situation économique et sociale, donner des avis sur les orientations générales de l'économie, formuler des propositions dans les divers domaines économiques et sociaux, favoriser, comme vous le constatez, dans la composition, la coopération entre les partenaires économiques et sociaux, et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale qui est très importante, et publier un rapport annuel sur la situation économique et sociale et se constituer comme une banque de données sur la situation économique et sociale de notre pays. Donc, c'est un organe consultatif, hein, c'est un organe consultatif qui a pour mission également de donner des avis sur les questions économiques et sociales, lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Et de sa propre initiative également, il peut formuler des avis sur les mêmes questions et attirer même l'attention du gouvernement ou des gouvernements provinciaux sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.
Et dans l'esprit de son fonctionnement, c'est comment? C'est comme un organe qui réunit la société civile? Est-ce que c'est les politiques? Comment peut-il fonctionner? Parce qu'on sait des fois, quand on crée des structures dans notre pays, après la mise en place, c'est l'étirement au sens du fonctionnement. L'idée de la loi, c'est faire fonctionner ça comme un organe purement de la société civile ou bien avec des obligations politiques.
Non. C'est un organe, non, c'est une institution publique qui a une personnalité juridique, qui est composée, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est bicéphale, qui est composée de public et de privé. Mm-hmm. Comme vous voyez, quand vous lisez le texte qui compose l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de cet organe, elle est composée de 68 membres. Et vous avez 5 membres représentant les organisations professionnelles d'employeurs, donc comme le patronat, la FEC et autres. Vous avez 5 membres représentant les organisations professionnelles de travailleurs, les syndicats. Ouais. Et vous avez 5 membres représentant les organisations non gouvernementales pour le développement, donc les ONG de développement. Vous avez 5 membres représentant les confessions religieuses. 5 membres représentant les ordres, associations et corporations professionnelles. Vous avez 3 membres représentant les associations des femmes qui s'occupent du secteur économique et social. Vous avez 3 membres représentant les autorités traditionnelles et coutumières, parce que c'est la base même, le socle même du développement. Et même si certains d'entre eux n'ont pas beaucoup d'études, mais ils vivent au jour le jour les problèmes fondamentaux de l'économie dans le Congo profond. Et vous avez 3 membres représentant le secteur financier, bancaire et des assurances, et 3 autres membres qui indépendants désignés par le président lui-même, et 2 membres représentant la diaspora congolaise, et enfin 1 membre représentant chacune des 25 provinces. Donc c'est un ensemble de personnes de tous les horizons et de tous les secteurs qui concernent les problèmes économiques et sociaux qui sont là.
Voilà, on va revenir à vous pour entrer dans le vif, dans le fonctionnement, l'impact de cela, c'est pas les soucis même de nos auditeurs. Quel pourrait être son impact sur la vie sociale de la population? Thierry est ici à Kinshasa, Franck est à Vienne en Autriche, nous avons Kams qui est à Likati. Je rappelle encore le numéro si vous avez besoin d'intervenir en direct, 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Thierry, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les précisions avec notre invité par rapport au Conseil économique et social, son fonctionnement, ses objectifs. Quelle est votre préoccupation ou votre contribution?
Bon, je salue d'abord l'honorable Thomas Lokondo, que je connais très bien au Parlement par ses brillantes interventions. Alors, ma petite contribution ou bien quelques suggestions que j'allais faire, c'est de savoir, est-ce que ça, ce n'est pas un organe de trop par rapport à la réalité que nous avons dans notre pays? Et en plus, la commission ou bien l'organe qui comprend 68 membres, selon quels critères? Je ne sais pas si monsieur l'honorable qui a proposé cette loi peut nous éclaircir là-dessus. 68 membres. Et autre chose, je viens de le suivre, il a dit que ça représente toutes les couches sociales de la population. Mais moi, je suis étudiant. Je n'ai pas vu au moins quelque part où on a consulté les étudiants, par exemple, ou soit les consommateurs congolais qui sont des vrais acteurs, ou soit qui devraient figurer aussi dans la liste de ces 68 membres. Donc voilà mes préoccupations que j'avais.
Merci beaucoup Thierry de Kinshasa. Pourquoi un conseil économique social n'est-il pas un organe de trop? Les critères de nomination de personnes qui ont été les désignées, pourquoi les étudiants, les consommateurs ne sont pas représentés? Merci beaucoup Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'honorable Thomas Lecondo, bonjour à l'équipe de terre et à tous les amis fidèles de la Radio Capi.
Pour vous, pour que cet organe travaille de manière plus efficace et qu'il porte le fruit sur l'amélioration du social des Congolais, Franck, qu'est-ce qui doit être fait en priorité?
Merci beaucoup, mon argumentation va porter sur deux petits points. Au premier, c'est un rappel. Entre 2007 et 2008, je crois que ça doit être en 2008, si j'ai encore bonne mémoire, notre chef d'État s'exprimait au cours d'une interview accordée à la New York Times.
Mm-hmm.
Et au cours de la dite interview, il a dit ceci, qu'il avait besoin de 8 à 15 personnes seulement qui raisonnent comme lui afin de transformer la République démocratique du Congo véritablement.
Mm-hmm.
Et alors vers la fin, il a laissé une exclamation verte, il a dit qu'il ne savait pas s'il les avait déjà à côté de lui. Moi, je trouve que le débat ne se situe pas au niveau de ce qu'il vient de nommer, de l'organe qu'on vient de mettre en place. Je crois que la constitution de l'organe en soi peut être bonne par rapport aux besoins qui se présentent sur la bonne marche de nos institutions.
Mm-hmm.
Mais encore faut-il que cette équipe soit à la hauteur de la mission pour laquelle ils sont investis et aussi répondre favorablement aux attentes de la population. Je veux dire par là que si le 8 à 15 personnes dont le chef d'État avait besoin en 2008 sont parmi celles qui viennent d'investir à ce poste à base de cette ordonnance-loi, alors les citoyens congolais peuvent déjà commencer à se réjouir. Mais si ce n'est pas le cas, alors je vais directement rejoindre l'opinion des compatriotes qui viennent de passer avant moi,
mm-hmm.
on risque de faire du surplace. C'est au niveau de l'efficacité et de la crédibilité de ces gens-là. Sont-ils parmi les gens dont ils avaient vraiment besoin ou c'est seulement pour répondre aux aspirations des calculs de certains états-majors? Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous soutenez l'idée, mais c'est plus l'efficacité et la crédibilité qui peut faire réussir le travail de cet organe. Hein. Si jamais le 8 à 15 personnes que le chef de l'État avait besoin se retrouve parmi ces 68 personnes qui ont été investies, et cela peut résoudre le problème de la population. Merci beaucoup. Kams, vous êtes à Likasi, dans la province du Katanga. Bonjour, Kams.
Bonjour, Gilles. Bonjour à l'honorable Kondo.
On vous écoute, Kams. Vous avez suivi les uns et les autres. À quel niveau se situe votre préoccupation par rapport au Conseil économique et social?
Ma préoccupation est celle-ci, Gilles. Concernant les nominations de ces membres de l'organe, bon, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi, Gilles? Il y a un problème qui se passe dans notre pays. Les problèmes que nous avons dans ce pays, tout le monde les connaît très bien. On a un problème très sérieux. Nommer quelqu'un dans ce poste, c'est une façon de commencer à détruire, même de voler, c'est-à-dire de détruire même le gouvernement public. Ce qui est vrai, c'est que le suivi soit là, concernant tous ces membres-là, tous ces gens qui ont été nommés par le président de la République. C'est normal, on peut être pessimiste, on peut être d'accord, mais ce qui est vrai, il faut que le suivi soit là. C'est pas dit que nous, en nommant tous ces membres, c'est vraiment résoudre notre problème que nous avons dans ce pays. Là, franchement, je ne suis pas du tout d'accord.
Merci Franck. Vous estimez que le travail doit résider dans le suivi de ce qui doit être fait. C'est pas seulement le fait de nommer qui peut résoudre le problème. Honorable Henri Thomas Lecondo, on revient à vous, trois intervenants tout à l'heure. Thierry vous a posé des questions. Est-ce que ce n'est pas un organe de trop? Pourquoi il n'y a pas les étudiants ne sont pas représentés, les consommateurs qui sont au centre du tout? Franck, lui, pense que s'il y a de l'efficacité et de la crédibilité, cela peut marcher. Et notre ami Kamp dit on connaît le problème de notre pays, c'est le manque de suivi. S'ils sont nommés et ils vont travailler et qu'il n'y a pas de suivi, on risque de faire du surplace. Votre réponse?
Oui, si j'ai bien suivi mon ami Thierry, il a posé trois questions. Il dit que c'est pas un organe de trop.
et les critères de nomination et pourquoi les étudiants sont absents.
Non, je ne pense pas que c'est un critère de trop. Vous savez, si c'était un critère de trop, d'abord, le peuple congolais n'allait pas voter la constitution en acceptant qu'on puisse exiger qu'on puisse mettre ça en place. Ça, c'est un, sur le plan de droit. Mais sur le plan pratique, vous savez que c'est une structure, un organe universel. Partout au monde, on voit ça comme dans plusieurs pays européens et africains, il existe un conseil économique et social. Et j'informe mon ami Franck, j'ai mis beaucoup de temps pour faire du droit comparé avant de rédiger ce texte-là. J'ai lu beaucoup d'autres textes qui régissent, qui font exister cet organe dans d'autres pays. C'est un organe qui est important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un organe qui sera une espèce de haute autorité morale. Parce que quand un organe, quand le président de la République, le Sénat, l'Assemblée et toutes les autres institutions demandent un avis consultatif à un organe, ou si cet organe de sa propre initiative donne des avis sur les matières qui juge de sa compétence, c'est important pour la nation. Quand on dit de trop, cela veut dire quoi? Ben je crois que l'ami dit, mais puisqu'il y a l'Assemblée nationale, puisqu'il y a le Sénat, ou qu'il y a d'autres qui ont même le pouvoir coercitif, n'agissent pas comme le souhaite la population, mais est-ce que c'est le Conseil économique et social qui va faire quelque chose? Non. Là, vous savez, parce que la crise que nous connaissons dans notre pays est d'abord une crise morale. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, le Conseil économique et social est une structure hautement morale. Je veux vous donner un exemple. Quand il y a eu la cohabitation en France entre Chirac et Jospin, il y avait la ministre Martine Aubry qui avait fait un projet de loi. Et comme le président Chirac devrait envoyer ce projet de loi à l'Assemblée, le président Chirac a dit, avant que je n'envoie ce projet de loi à l'Assemblée, il faut que j'aie l'avis consultatif du Conseil économique et social. Et il a transmis le projet de Martine Aubry au Conseil économique et social de la France, et le Conseil a réagi négativement. Il a donné des avis négatifs. Et le président a dit, non, je ne veux pas. Et vous voyez, quand on est un cadre républicain qui a une bonne moralité, mais c'est une sanction morale qui peut même faire démissionner tout un ministre. Donc, c'est avec l'émission que le Conseil économique et social a, et je suis tout à fait d'accord avec, et je reviendrai sur ce que Franck a dit, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faut agir selon les règles de l'art, en respectant la Constitution et les lois de la République. Si on ne respecte pas ces règles du jeu-là, ben alors, on peut même dire que le Parlement est de trop. On peut dire que la Cour constitutionnelle est de trop. C'est l'homme. C'est l'homme, finalement, qui doit agir. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il parle des critères de nomination. Les critères de nomination, moi, j'ai pensé que il fallait responsabiliser les membres qui seront désignés, il faut responsabiliser chaque catégorie professionnelle selon les textes les régissant. C'est-à-dire que, bon, s'il faut choisir, comme on a dit, 5 personnes de la FEC, c'est la FEC elle-même qui doit choisir le meilleur parmi elles. Si, comme j'avais proposé 3 membres représentant le monde scientifique, il faut choisir des grands professeurs d'université qui ont de l'expérience. Il ne suffit pas d'avoir un petit diplôme pour ça, mais qui ont une expérience avérée qui doivent représenter ce secteur-là. Et pour ce qui concerne les étudiants, je me dis, bon, ils étudient d'abord quand même. Ils terminent d'abord leurs études parce qu'ils ne sont représentés pas.
Les consommateurs.
Les consommateurs. Mais les consommateurs sont dans pratiquement, je dirais, dans cette panoplie
Mais Franck a évoqué l'efficacité, la crédibilité, quand c'est revenu sur le problème que nous avons, notre faiblesse, c'est le suivi du travail qui s'est fait. Mais s'il y a un organe, quel est le mécanisme de contrôle du travail qui doit être fait par le Conseil économique et social?
Si vous voulez bien que je réponde d'abord à la préoccupation de Franck, qui a parlé de 15 personnes auxquelles le président pensait qui pouvait l'aider. Non, il a fondamentalement raison. Il faut que cette équipe, j'espère, c'est pas moi qui est nommé ou qui nomme, il y a la séparation de pouvoir. Nous, on a fait notre travail, nous avons fait la loi, le président l'a promulguée, c'est le président qui, dans un premier temps, nomme les membres de l'Assemblée générale. Et moi également, je brûle d'envie de connaître ces gens parce qu'il y a des illustres, je ne dis pas ils sont inconnus parce que je ne les connais pas. Mm-hmm. Je connais seulement deux ou trois, quatre personnes là-bas. Mais je pense que les sélectionneurs, ceux qui ont proposé au président la nomination de ces conseillers-là, l'ont fait en âme et conscience, en tenant compte de plus que nous avons arrêté. Il a tout à fait raison d'insister sur la crédibilité, sur la compétence des gens qui ont été investis. D'ailleurs, pour votre information, les gens pensaient que comme moi je suis l'initiateur de la loi, j'étais au parfum où j'avais participé à la sélection de ces gens-là. Non, je n'ai pas participé. Comme je disais tout à l'heure, je veux connaître aussi un peu, curiosité, le CV de ces gens-là.
Il y a Marcel qui est à Paris et Kabacha Bukavu, mais la préoccupation de notre ami Kams, c'est, il dit, bon, on risque d'être pessimiste parce que des fois, il y a des structures qui travaillent à partir des suivis, pas des contrôles.
Le suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la mission constitutionnelle du Conseil économique et social, c'est donner des avis consultatifs.
Mmh.
Et le suivi, c'est quoi? Parce que quand le Conseil donne des avis et que vous ne suivez pas, mais lui va publier son rapport annuel pour dire voilà ce que moi j'avais fait, j'avais donné tel avis au gouvernement qu'il avait pas suivi, et voilà où il se trouve maintenant.
Mmh.
Mais même, le suivi, c'est quoi? C'est que bon, le président de la République ou l'Assemblée nationale ou le Sénat qui, en présentant un projet ou proposition de loi, le Conseil économique et social donne des avis sur cette proposition de loi ou ce projet de loi, vous ne voulez pas le suivre. Et après, quand, par exemple, si c'est une loi organique, ça passe à la Cour suprême de justice, et la Cour suprême de justice la bloque ou le bloque. Bien, voilà, j'insiste sur la moralité, c'est une sanction morale, donc le suivi est plus moral que coercitif.
Marcel, vous êtes à Paris, Kabacha, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Je rappelle encore que nous nous penchons sur l'investiture dimanche d'Orlier par ordonnance présidentielle des 68 membres du Conseil économique et social, un organe qui a pour mission de formuler des propositions concrètes pour améliorer le vécu quotidien du Congolais. Pour vous, quel pourrait être l'impact de cet organe sur la vie sociale des Congolais? Et je rappelle encore que nous avons associé à cet échange M. Henri Thomas Lokondo, député national et initiateur de la loi organique portant création du Conseil économique et social. 0-14-1-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs.
Marcel, vous nous appelez de Paris, bonjour.
Bonjour, et je veux aussi dire bonjour à M. Henri. Sauf que je voudrais dire à M. Henri, c'est un organe d'escroc, et qui va encore engloutir des sommes EMA, et ces sommes-là pourraient servir à quelque chose pour la population. Et la mission est de donner comment améliorer les conditions de vie. J'aurais souhaité, on a toujours de très bonnes idées, mais l'exécution et le suivi ne suivent pas. L'exécution, des fois, on commence là où on devait finir. L'exemple est là. On devait il faut commencer à donner ce travail aux associations qui devaient faire des travaux de proximité, parce qu'ils sont avec la population. Ils pouvaient remonter ça et arriver jusqu'au niveau où le gouvernement pouvait s'en servir à partir de toutes ces associations, et après ces associations pouvaient créer un observatoire de pauvreté. Il ne suffit pas seulement de proposer des choses, mais il faut aussi donner des solutions à ces choses-là. Mais sauf que les personnes qui peuvent donner des solutions à ces choses-là, ça pouvait être des associations qui pouvaient faire des travaux de proximité avec la population. Qui sont toujours avec la population, parce que, vous savez, comme il a dit, il a très bien dit, en France, il a donné de très bons exemples. Nous, des fois, nous faisons des plagiats sans adapter à notre réalité, adapter à la réalité sociale de nos concitoyens. Le problème, on a nommé des personnes. Ces personnes ont besoin de travailler. Il y a même des personnes qui ont travaillé à l'époque de Mobutu, qui ont été des ministres, qui ont été des ceci. Quel a été leur bilan? C'est des personnes qui n'ont rien foutu en réalité. Rien. Il faut voir si on veut nommer des personnes, on voit leur CV, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont changé quand ils ont été dans des postes. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Vous voyez, des fois, le président, on lui propose des choses. Je crois qu'il faut aussi, à un moment, que les gens se mettent à réfléchir. Parce que vous savez, ce qui va être demain. Et demain, ces personnes-là, les gens commencent à se réveiller. Je vois avec la révision constitutionnelle où tout le monde se réveille. Mais le problème, c'est demain. Demain, il faut penser à demain. Le problème, nous devons le mettre dans la manière de le faire. Notre manière d'exécuter. Je donne un exemple. Il y a déjà tous les ministères qui sont là. Il y a un rapport annuel et un rapport MAPI. Pourquoi ces ministères ne pouvaient pas utiliser ces rapports et donner après à l'Observatoire des pauvretés qui pouvait se créer dans des communes, dans des quartiers, dans des collectivités, dans des localités? Toutes ces personnes qu'on a nommées aujourd'hui, ils vont rester dans des grandes villes, ils vont rester dans des hôtels, ils vont avoir des frais d'émission, des énormes sommes de frais d'émission, aller passer leur temps dans des hôtels et faire des papiers. Mais les gens ont besoin de réalité. Moi, je vais donner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut poser aujourd'hui la question? Le gouvernement avait lancé la campagne agricole en 2011. Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'il y a des rapports qui reviennent où le gouvernement a des rapports concrets où le travail s'est bien fait? Il n'y a jamais de suivi. Nous, notre problème, nous créons des choses en oublié. Restructurer.
Voilà. Marcel, si on vous suit, Marcel, il y a deux choses. Vous estimez d'abord que le Conseil économique et social, c'est déjà un organe de trop, mais au même moment, vous proposez qu'on ait un observatoire de pauvreté jusque dans les quartiers, dans les communes. Ça sera aussi des personnes qui vont travailler, qui vont être utilisées.
Et tous les grands villes.
Mais là, le problème de budget va encore se poser parce que ces personnes de l'Observatoire des pauvretés qui vont être utilisées dans les grandes villes, ça sera encore énorme, beaucoup de personnes, et les problèmes de l'argent risquent encore de se poser. Mais ce qui est important, Marcel, dans votre intervention, c'est qu'il ne suffit pas seulement qu'on puisse définir les problèmes, mais c'est important que les membres puissent aussi définir les solutions pour arriver à bout de ces problèmes. C'est ce que je retiens vraiment, c'est très important. Mais vous revenez aussi également à la question des suivis. Mettre en place un organe, c'est bien, mais il faut le faire fonctionner, il faut qu'il ait des ressources jusqu'à ce qu'on puisse palper les résultats. Merci beaucoup, Marcel, de nous avoir appelé de Paris en France. Gabacha, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, papa.
Alors, vous avez suivi Marcel qui est à Paris. C'est vrai que les gens sont inquiets, ils pensent que c'est bon, mais il faut les suivre. Mais d'un côté, les gens estiment que ça doit être plus efficace pour éviter aussi de revenir aux échecs des fois des autres initiatives et que les gens puissent voir vraiment l'impact de cela. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, Kabacha, selon vous?
Moi, je crois que je suis tenté de croire que c'est un organe de trop comme les autres, parce que j'ai déjà vu que ce n'est pas la première fois qu'une organe pareil vient d'être créée par notre chef de l'État. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de commissions qui ont été créées. En tout cas, ces commissions sont toute une panoplie et sans résultat. Et à leur période, l'honorable Poulambo et Kantitima, alors ministre de l'économie et de la justice, se sont vus confier une telle structure pour le bien-être social. Jusqu'aujourd'hui, sans suite et sans résultat. Si tenter de croire que c'est pour la raison de positionnement politique et de pénétration de l'opposition et de la société civile qui risque de se diviser à la suite de la recherche de partage du nouveau gâteau qui vient de leur offrir le président de la République, créer une structure que le président de la République vient de leur confier. Parce que nous avons que, à la suite du dialogue qui devrait exister entre l'opposition politique et la société civile et le gouvernement, et qui devrait engendrer un gouvernement de cohésion nationale, tout cela a échoué. C'est pour donc, ce n'est pas donc pour le bien-être de la population. Je pense que la parole du politicien n'engage que celui qui l'écoute, parce que nous sommes habitués à de telles gymnastiques. Nous sommes en face, je crois que nous sommes en face de la parole que nous a dit M. Lafontaine, le corbeau et les renards. Les renards qui représentent l'État congolais et le corbeau qui représente le souverain primaire. Et bien, je vous remercie.
Merci beaucoup, Kabasha. Merci beaucoup. Mais dis-moi, je retiens de, que vous êtes inquiet. En fait, le souci aujourd'hui avec les auditeurs, c'est de voir ce qui est mis en place à porter des résultats dans leur milieu, que les gens voient qu'il y a quand même des changements. Marcel, tout à l'heure, évoquait les lancements de la campagne agricole en 2011. Il se demande où en est-on aujourd'hui, quels sont les résultats. Vous êtes aussi revenu sur une structure qui a été mise en place entre le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture, alors du temps du gouvernement du premier ministre Adolphe Mouzito. Vous vous demandez cette structure, on n'a pas vu des résultats. C'est un peu ça votre inquiétude. Si cet organe peut arriver vraiment à des résultats concrets. Merci beaucoup. Guy André, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Si vous pouvez arrêter votre poste récepteur carrément, Guy André, arrêtez votre poste récepteur, on peut mieux communiquer sur
nous. Effectivement, c'est fait.
Voilà, alors vous avez suivi les uns et les autres, qu'est-ce qui doit être fait pour que cet organe ait de l'impact sur le social de la population?
Oui, merci. Je remercie d'abord la radio Okapi pour cette opportunité. Allô?
Oui, allez-y. Apparemment, il y a deux personnes
oui, de
vous qui s'intéressent.
Je salue encore l'honorable Thomas que j'ai toujours préféré puisqu'il a toujours une sagacité lors de ses interventions au Parlement. Mais je voudrais, moi, dire ceci. L'idée en soi est vraiment géniale, à telle enseigne que les difficultés socio-économiques sont soumises directement au chef de l'État, au Parlement ou au gouvernement. Mais il se pose un problème, un problème de lequel on est déjà mal parti. Le tout premier intervenant l'a soulevé. Comment voulez-vous, moi, je suis le président syndical de grand renommée, RANECO, Rassemblement National pour le Punissement des Entreprises Congolaises. Mais nous n'avons pas compris sur base de quels critères l'on a retenu le membre de cet organe. Donc ça pose déjà problème, puisque vous savez, ça va encore prendre de l'expertise. Comment est-ce qu'on peut constituer un organe alors que le membre en question
oui.
Parce que l'honorable l'a dit. Allô?
Oui, allez-y, il y avait des petits...
Oui, l'honorable l'a dit, et ça, pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans le patron, il y a cinq membres qui étaient retenus pour notre groupe. Mais le cinq membres là, j'ai fait un peu de recherche, je n'ai pas trouvé. Du moins, je ne sais pas si M. Socrate, je connais de la OPENCO, mais le reste, vraiment, ça pose problème. Comment est-ce que voilà, un grand programme comme celui-ci peut être composé dans une circonscription
Oui, voilà, Guy André, il y a des petits soucis des lignes avec votre téléphone, mais dis-moi, on vous a suivi, l'idée est géniale. La grande difficulté aujourd'hui, le problème qui s'est posé, c'est dans la désignation des membres. On connaît la guerre éternelle quand il s'agit de désigner des membres pour représenter les autres dans des structures en RDC, on sait comment ça se passe. Déjà, on comprend que c'est au niveau du syndicat que vous représentez, les vendeurs, et vous sentez déjà qu'il y a un problème. Alors, comment les gens ont été désignés, c'est une question. Vous avez suivi notre invité à donner des précisions pour dire, lui, il a initié la loi, mais il n'a pas participé à la désignation de membres. Mais on va tout à l'heure lui accorder la parole. Choukran, vous êtes à bout, gardez la parole, on va revenir à vous. Honorable Henri Thomas Lokondo, vous avez suivi Marcel Kabacha et Guy André. Le problème qui se pose, c'est un problème de confiance, si moi j'essaie un peu de le comprendre, ça veut dire, les gens regardent l'histoire de notre pays, le fonctionnement des institutions, les soucis qu'ils ont de voir des résolutions, des organes, des institutions travailler et pas apporter des solutions à leurs problèmes. Ils sentent que ça ne se fait pas, c'est ce qui le fait, qui le pousse à dire, mais bon, voilà, c'est un organe de trop, est-ce que ça va apporter des fruits? Et là aussi, il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait au niveau de la population pour que les gens comprennent le bien fondé, effectivement, de cet organe.
Oui, je voudrais d'abord faire une mise au point pour insister sur quelque chose. Alors, pas comme je l'ai dit tout au début, cette loi a été voulue par le peuple congolais, c'est ça. Et le fil conducteur, parce que vous-même vous avez perçu, même dans l'intervention de notre ami Marcel de Paris, qu'il y avait une petite contradiction quand il dit que, bon, au lieu de mettre en place un conseil économique ou social, il fallait
un observatoire de pauvreté,
oui. Au niveau même de province. Le fil conducteur du conseil, de la mise en place du conseil économique et social est parti du constat que moi j'ai fait. C'est que la gestion socio-économique de notre pays est souvent caractérisée par des dysfonctionnements et des contre-performances à cause notamment de l'absence d'un cadre de concertation structuré entre différents acteurs socio-économiques. Alors, cette absence n'est pas de nature à inciter le gouvernement à mieux orienter ses actions dans le domaine économique et social, en vue justement d'une amélioration qualitative du vécu quotidien de la population. Donc, il faut qu'il y ait un cadre structuré au niveau national, et je vous ai parlé de la composition. Donc, ça concerne tout le monde. C'est tout le monde qui devrait être dedans. Et là où je suis d'accord avec Marcel de Paris, c'est, il revient sur ce qu'on a parlé, de la compétence. Le suivi, j'ai répondu, de la compétence surtout, parce que le suivi est... dépend de la compétence, de la qualité des gens qui vont composer cette assemblée. Et je suis tout à fait d'accord avec notre ami Guy André quand il dit que bon, tout s'est fait dans l'opacité, et on n'a pas respecté les critères. Or, si justement on a des gens qui sont désignés selon les critères que nous avons arrêtés, et je crois que le problème du suivi, le problème de l'impact de cet organe sur le vécu quotidien de la population est évident. Est évident parce que, comme je n'essaie de le dire, le problème, ce n'est pas le problème du budget budgétivore et de trop, non. Le problème de notre pays, c'est que notre budget et la Cour de Kant nous l'a plusieurs fois démontré, il y a une mauvaise affectation des dépenses de l'État, la qualité des dépenses. Quand vous avez d'autres structures qui sont dans le budget, qui n'ont rien à voir avec le vécu quotidien de la population. Et il ne faut pas le comparer avec le Conseil économique et social, comme je l'ai dit, qui est une structure universelle. Bon, puisqu'on parle de budget, puisqu'on dit que c'est de trop, c'est par rapport à l'argent, par rapport au budget. Mais notre pays peut. On nous a présenté maintenant un budget, un projet de budget de 8 milliards et 2 ou 9 milliards. Mais nous pouvons faire un budget de 20 milliards. Si on faisait un budget de 20 milliards, de 25 milliards ou de 30 milliards, comme l'Angola, on n'aurait pas à parler de problème de budget ou de problème de trop, parce que c'est une structure, je ne sais de le dire, très importante pour le développement intégral de notre pays. Et comme vous devez le savoir, ce projet de loi a été voté à l'unanimité au Sénat et chez nous à l'Assemblée, sur 326 députés qui avaient pris part au vote, 326 avaient voté oui, 3 seulement avaient voté non et un député avait voté abstention. Donc, on ne peut pas dire que tout ce monde-là n'a pas perçu la non-importance ou l'importance. Non, je crois que c'est une structure très importante et je remercie notre ami de Bukavu, plutôt de Kinshasa Guy André qui a reconnu que c'est une structure très importante. Pour notre ami
de
Bukavu, parle du partage du gâteau. Bon, on avait mis à être une structure interne. Ça, c'est une structure gouvernementale interne, mais le Conseil économique et social est indépendant dans ses actions. Je vous ai dit, donne des avis quand il veut et sanctionne moralement. Peut-être que, bon, les gens pensent que, bon, puisque l'Assemblée nationale tient le pouvoir de destituer un député, ne l'a jamais fait. Mais je peux rétorquer en disant que moi j'étais sénateur la législature passée, comme maintenant. Vous savez que, sans poids aux yeux, je vous dis que vous êtes de l'opinion, mais l'opinion respecte mieux le Sénat que l'Assemblée nationale.
Oui.
Pourquoi? C'est par rapport à la qualité des gens qui sont dans cet hémicycle. Et les ministres et tous les autres mandataires ont peur de venir au Sénat. Mais préfère bien aller à l'Assemblée parce que bon, là, peut-être qu'il y a une opposition pavlovienne ou une majorité mécanique, mais c'est une question de. Je suis tout à fait d'accord avec tous les intervenants. Il faut des meilleurs parmi nous. Il faut prendre des gens qui ont l'expérience. Il ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un petit diplôme ou d'avoir travaillé 3-4 ans quelque part et on vous prend dans un conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est un parlement économique bis, comme le Sénat. Vous devez avoir des gens qui sont qui ont tout fait dans leur vie.
Voilà. Mais j'ai peut-être eu une préoccupation parce que il y a le DCRP, on sait qui permet quand même de pouvoir de voir le problème dans leur globalité à la base, de proposer aussi des pistes et des solutions. Alors, est-ce que le travail de DCRP, le Conseil économique et social, ça peut quand même se rencontrer quelque part pour permettre à ce qu'on dégage une vision claire de ce qu'on
veut faire? Le DCRP, c'est autre chose. Le document stratégique pour... non, c'est un programme qui est d'inspiration d'ailleurs internationale, mais non. Ça n'a rien à voir avec le Conseil économique. Au contraire, justement, le Conseil économique et social peut vous rappeler le contenu
du DCRP,
voilà. Les engagements pris vis-à-vis de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec le DCRP.
Mais vous avez dit que la vie est consultative. On sait qu'un gouvernement, quand il est investi, c'est sur base d'un programme. Alors, le gouvernement est composé de partis politiques qui ont aussi leur projet de société. Alors, l'idée aussi, c'est de voir comment cela peut se marier entre le programme du gouvernement, d'abord en amont avec les projets des partis politiques qui doivent se traduire dans un programme du gouvernement et d'un côté les conseils économiques et sociaux. Où est-ce que ça agit en amont par rapport à l'autre? C'est le gouvernement qui doit être investi, qui consulte avant, ou c'est quand il a un exercice de peut consulter, ou c'est un gouvernement qui est déjà investi et que les conseils
peuvent si le conseil économique et social existe depuis longtemps, un premier ministre qui est nommé, qui veut présenter son programme d'action, peut éventuellement poser, disons, demander des avis consultatifs au Conseil économique et social, il n'y a pas de problème. Ou même après, quand il veut exécuter son
programme
budget, enfin, son programme. Mais l'essentiel est de prétention. Donc, vous êtes surveillé par un organe qui est une espèce d'autorité morale sur le plan économique et social. Parce que, comme on dit, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse.
Merci. Choukran, vous êtes à Bounia, en province orientale. Maurice, vous êtes à Kwenge. Et Dieu merci à Manono au Katanga 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour mettre votre point de vue dans cette émission consacrée à l'impact du Conseil économique et social sur la vie sociale de Congolais.
Parole aux auditeurs.
Choukran, c'est la dernière partie de cette émission. On vous écoute. Vous êtes à Bounia. Bonjour. Choukran, vous êtes avec nous, bonjour. Nous avons perdu notre ami de Bounia. Nous allons à Kwenge. Maurice, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Maurice.
Merci de m'avoir accordé la parole. À ce qui concerne ce conseil économique social du pays, après la concertation, on a arrêté les mesures pour le social du pays. Mais jusque-là, aucune chose est envisagée dans les, aucune identité qu'on voit sur le terrain. Après même, avant la contestation, il y avait un gouvernement des technocrates. On nous disait, nous devons former le gouvernement des technocrates. Mais avec ce gouvernement, rien on voit de bon sur les jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le conseil social économique. Et le social, pour moi, c'est un des taux. Ce conseil social, c'est un des taux. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut jamais mettre ces mesures qu'on avait arrêtées sur, pendant la concertation, appliquer cela pour qu'aujourd'hui nous ayons encore le conseil social et économique du pays. En tout cas, pour moi, il y a une mauvaise gouvernance dans le pays, même si ce conseil social pourra rester là pendant longtemps, pendant 15 ans, rien ne va changer. Mais si tout le monde s'est mobilisé pour être... Pour avoir la bonne volonté politique, on pourra faire de mieux dans ce pays. Mais si on nous reste là, avec aujourd'hui, on forme des conseils, demain, il y aura ceci, après demain, il y aura cela, en tout cas, pour moi, ça ne va pas.
Ah, merci beaucoup. Maurice, vous estimez qu'il y a eu les concertations nationales, beaucoup de personnes ont inspiré à ces concertations, il y a eu des recommandations, plusieurs recommandations, la promesse de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale, et vous estimez que cela n'a pas porté de fruits sur le terrain, et même la formation d'un gouvernement des technocrates, selon les termes que vous avez utilisés, pour vous, vous estimez que cela n'a pas porté de fruits. C'est ce qui vous amène aussi à vous inquiéter par rapport au Conseil économique. Mais je retiens dans votre intervention la question de la mauvaise gouvernance. Vous estimez qu'avec la mauvaise gouvernance, l'absence d'une volonté politique, on ne peut pas avoir des résultats, quand bien même les conseils économiques et sociaux pourraient travailler. Merci Maurice. Et Dieu merci. Vous êtes à Manono dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Dieu merci. On tend vers la fin de cette émission. Votre intervention.
Oui, merci beaucoup. Nous vous remercions pour avoir organisé de tels débats. Merci aussi, l'honorable Thomas, pour vraiment son courage et la bonne initiative d'initier cette loi. Mais ce que moi je vais apporter comme intervention à ce débat, bien à cette question, c'est juste poser la question à l'honorable qui est auprès de vous, au niveau du plateau de la radio Capi, de savoir si il a pris d'abord le temps d'étudier, d'étudier les causes, les vraies causes qui bloquent les organes qui s'organisent autour du pays. Vous savez, mes prédécesseurs ont parlé de beaucoup d'organes qui n'ont rien apporté à travers le pays. Bien sûr, nous savons qu'en RDC, il y a beaucoup de propositions qu'on donne au chef de l'État. Parfois, le chef de l'État accepte pour le bien-être du social. Mais sur le social, vraiment, il n'a rien à faire le journaliste. C'est pourquoi on voudrait savoir si l'honorable Thomas a pris le temps d'étudier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se contenter seulement de l'avenir, pour nous parler de l'avenir, sans faire un pas en arrière, pour ne pas reculer. Et au passé, il faut prendre le temps d'étudier pourquoi il y a vraiment quels sont le vrai problème qui bloque les organes qui s'organisent autour du pays. On a parlé de la concertation nationale. On a parlé, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Il y a aussi le problème de l'immunité, excusez. La radio Capi a toujours organisé de bons débats. Mais on n'arrive pas à comprendre si les législateurs de notre pays arrivent aussi à comprendre les situations des auditeurs de la radio Capi.
Merci.
On ne sait pas si on est ici, on ne sait pas si faire voir connaître de tout, mais il faut aussi présenter cette insuffisance. À partir de ce que les autres vont dire de vous, vous pouvez prendre de très bonnes idées. En termes de propositions, il y a ceux qui ont parlé de la compétence, du suivi, ce sont les vrais piliers pour la réussite. Mais ce qu'il a ajouté là-dessus, c'est le problème de la volonté. La volonté. On constate souvent que c'est un mot qui existe, qui passe souvent aux antennes de la radio Capi. Il n'y a pas la volonté en République démocratique du Congo. Lorsqu'il initie, il cherche le bien-être du social congolais, mais lorsqu'il réussit, il va se louer à l'étranger. Il achète les villas, il fait quoi?
il y a aussi le problème de l'indépendance. Nous voulons une indépendance de la culture qui est qu'elle soit claire.
Mm-hmm. Merci beaucoup. On ne sait pas aller plus loin. Il y a un dernier auditeur sur les antennes qui va intervenir, mais beaucoup de messages aussi de nos auditeurs. Mais vous estimez, vous avez demandé à l'honorable s'il a eu le temps d'étudier les causes qui ont fait que d'autres structures ne puissent pas bien fonctionner ou d'autres organes avant la mise en place de ces conseils. Mais vous êtes revenu sur la volonté qui est politique, qui doit vraiment animer tout pour que ça puisse réussir. Beaucoup de messages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Jean-Luc de Lubumbashi lui estime que les salaires qu'on pourra donner à ces 68 personnes ne peuvent-ils pas servir à autre chose? Et même s'il y aura de propositions, seront-elles mises en application par les gouvernements? C'est ça son inquiétude. C'est l'inquiétude aussi de John Dewell de Chabunda. Il y a Maboko Nicolas de Lilongwe au Mali qui dit ceci, au Malawi plutôt, il y a eu 13 ans du travail du chef de l'État. Est-ce que les conseils vers la fin de son mandat peut-il apporter les fruits nécessaires? Fidèle de Lubumbashi dit ceci, la population congolaise a certes besoin de la modification de son mode de vie aujourd'hui. Alors, si cela arrive à travers ces conseils, c'est très bien. Et ben, pour Ngalamou, Médicamenga, si le gouvernement entier ne s'applique pas à faire changer la situation, il ne pourra pas le faire quand bien même il y aurait des avis du Conseil économique et social. Bien fait, Katalio a des Boutembo, je dirais que cela arrive en retard parce que beaucoup de membres du gouvernement, ceux qui travaillent aujourd'hui, le font déjà chacun de sa manière. Comment aujourd'hui pourront-ils recourir à ces conseils? Voilà autant de points de vue, beaucoup de messages reçus sur la page Facebook des paroles aux auditeurs qu'on ne pourra pas tous exploiter parce qu'on va terminer cette émission. Maurice, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. On est vraiment à la fin. Maurice, en une minute, comment cela peut contribuer à résoudre les problèmes qui se posent dans la vie sociale de la population? On est avec vous, Maurice, rapidement, bonjour.
Oui, et bonjour, je salue aussi l'honorable Thomas, et félicitations quand même pour l'initiative. Je suis ici depuis le début de l'émission. Vous savez que l'ensemble des auditeurs plane, doute un peu de la mise en œuvre, ou même de l'efficacité de ces conseils économiques et sociaux. Vous savez, dans ce pays, on n'a pas un problème, en fait, au niveau des textes. Les textes existent. Même le noir de Thomas est là, il fait son travail. Ce qu'il appelle à l'initiative rentre pleinement dans ses prérogatives parlementaires. C'est tout à fait normal. Mais les problèmes résident au niveau de la moralité des animateurs de ces conseils, ceux qui vont animer. C'est raison pour laquelle l'ensemble des auditeurs parle même de l'opportunité et de l'urgence. Nous savons que nous sommes dans un pays qui marche par la tête et non par les pieds. C'est pas le problème. Si nous étions dans un pays qui respecte ses propres textes, je pense que ces conseils économiques et sociaux devraient jouer un rôle. Mais lorsqu'on a déjà des organes qui ont même des prérogatives coercitives, qui n'arrivent même pas à sanctionner les gens qui détournent de fonds publics, qui bradent les espaces minières. Mais nous avons un organe ici, un organe qui ne sera là juste pour des conseils, pour les consultations. Vous pensez qu'il va jouer quel rôle? Raison pour laquelle nous pensons que ça serait vraiment budgétivore pour rien. On doit suspendre cela. On suspend et on garde ça au devoir comme ça. Lorsque ce pays aura à se conformer aux normes d'un état normal sérieux, je pense qu'on pourra
Merci beaucoup, Maurice. Vous estimez qu'en ce moment, nous ne fonctionnons pas d'une manière normale parce qu'il y a déjà des organes qui ont le pouvoir coercitif mais qui n'arrivent pas à fonctionner. Alors, comment celui-ci pourra-t-il être efficace? Notre problème, c'est le respect de nos propres textes. On revient à vous, honorable Henri Thomas Lokondo. On a suivi nos auditeurs. C'est important. C'est la première fois que nous parlons de cet organe dans parole aux auditeurs. Beaucoup de gens, il y en a qui soutiennent, il y en a qui estiment qu'il y a un grand travail qui doit être fait. Maurice évoque la moralité, il évoque le respect de texte pour arriver vraiment à faire fonctionner cet organe. Pour lui, il estime qu'on pourrait même garder. Quand on va atteindre le niveau vraiment de respect des textes et de fonctionnement normal, on pourra alors ressusciter le Conseil économique et social. Alors, vous allez placer un mot par rapport à ce point de vue des auditeurs et en profiter aussi pour conclure cette émission.
Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très content de la réaction de nos auditeurs qui ont dit des choses pertinentes quant à la gestion globale de la gouvernance générale de notre pays.
Mais je voudrais d'abord préciser pour celui qui avait parlé de concertation nationale, c'est que même dans les concertations nationales, nous avions exigé la mise en place de ce conseil économique et social.
Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec les amis. Je dirais même que si j'étais comme chez nous au Parlement, j'allais dire sans objet. Parce que ce qui relève là sur la volonté politique, sur le manque de contrôle, sur le manque de sanctions, sur la
l'amélioration de la gouvernance.
L'amélioration de... Mais ce sont des choses que nous disons, que moi je relève régulièrement dans, quand nous faisons nos débats. Et Maurice a raison quand il parle de la moralité des nominés. On a insisté sur ça. C'est pourquoi, moi je pense que, bon, il faut quand même qu'on publie le CV de ceux qui ont été nommés pour que le peuple soit convaincu de leur compétence et moralité. Le respect des textes, c'est ce qui tue notre pays, j'ai toujours dit ça. Hein. Non seulement on le respecte, mais on ne les lit même pas quelquefois. On a fait sortir quelque chose comme ça, et il n'y a personne qui les lit, et puis on avance comme ça, comme dans un brouillard. Le détournement, il a dit Maurice, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je prendrai l'exemple de la Gécamines. Quand j'étais délément en Europe, j'avais suivi que le président avait révoqué le DG de la Gécamines, qui pour les matériels qui devraient coûter 4 millions de dollars, il a fait sortir 20 millions de dollars. Et jusqu'à présent, on n'apprend même pas qu'il a été
entendu.
Donc pour ça, ils ont fondamentalement raison.
Oui.
Et je crois qu'ils doivent faire confiance à la structure que nous avons mise en place. Ils doivent faire confiance aux gens. Qui jusqu'à présent sont nommés, jusqu'à preuve du contraire, pour que nous puissions participer efficacement dans le développement intégral de notre pays.
Merci beaucoup, honorable Henri Thomas Lokondo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député national, initiateur de la loi organique portant création du Conseil économique et social. Les auditeurs, vous avez été très nombreux, nous vous disons merci. Vous avez contribué à cette émission consacrée, bien sûr, à l'impact de cet organe. Merci à Jean-Claude Fiala qui a mis en œuvre cette émission réalisée par Julie Feza. Pierre Olamiji vous l'a présenté sous la supervision d'Obeni Kabamba. Vous allez retrouver cette émission à 20h, 3 minutes de Kinshasa en rédiction, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.